Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral, il est 11h, merci de nous écouter et nous retrouvons Espace Horizon Inaccessible avec Jean-Jacques Ibos. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2019, pleine de santé, de joie et de satisfaction. Si Serge Gainsbourg a chanté 69 années érotiques, l'année 69 fut aussi une année astronautique. Et 2019 a commencé très fort, dès le 1er janvier, avec la sonde New Horizons qui a frôlé l'astéroïde Ultima Thule à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. Et ce matin, 3 janvier, la Chine a posé l'atterrisseur Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, réalisant une première mondiale. Après les avions, vu le mois dernier, voyons les hélicoptères. Un hélicoptère, du grec hélix, hélice et ptéron, elle, est un giravion, sustenté par une ou plusieurs voilures tournantes. C'est cette définition qui est reprise aujourd'hui dans la terminologie anglo-saxonne, où l'on parle de rotary wing, par opposition à fixed wing, les avions. Le père spirituel de l'hélicoptère est bien entendu Léonard de Vinci, qui dessine dans un premier temps un ornithotero, à battement, avec un train repliable, puis le précurseur de l'hélicoptère constitué d'une vis aérienne, surface hélicoïdale à spirale de 4,80 m de diamètre, actionnée par un jeu de levier autour de l'axe central. A noter que si Léonard de Vinci a conçu et dessiné de nombreux dispositifs, il n'y a aucune preuve qu'il les ait réalisés, ni évidemment commercialisés. Ce n'est donc ni un inventeur, ni un innovateur, mais un pur génie. Il existe depuis 1784 un jouet mû par un élastique qui sera perfectionné en 1870 par le français Alphonse Penaud, système de propulsion que ce même français utilisera aussi dans son invention pour la catapulte utilisable sur porte-avions. Même année, 1784, fut présenté à l'Académie des sciences de Paris le premier modèle d'hélicoptère par les Français Lannoy et Bienvenu, une maquette comportant deux hélices en forme de plume d'oiseau tournant en sens inverse à chaque extrémité d'un bâti léger, qui décolla par ses propres moyens. Sir George Cayley, en 1796, reconstruisit l'hélicoptère des Français Lannoy et Bienvenu et comprit qu'il fallait trouver une force capable de vaincre la résistance de l'air. Il matérialise les forces aérodynamiques portant ses traînées ainsi que leurs résultantes. Il dessinera l'ébauche d'un planeur, embarquant un jeune garçon de 10 ans en 1849, qui était soit pilote soit passager selon la version, faisant de George Cayley un précurseur du vol piloté. En 1842, l'anglais Phillips construisit et expérimente un modèle à deux hélices à axe vertical, creuse, dont la rotation est assurée par un effet de réaction. Le mélange propulseur est identique à celui des extincteurs dont Phillips est fabricant. C'est cette technologie qui sera reprise plusieurs fois. En 1943, par Friedrich von Tobolff, avec le Focke-Wulf 342, en 1945 par McDonnell Douglas, aidé non officiellement par le même savant nazi, avec le prototype Little Henry, la propulsion étant assurée par deux petits statoréacteurs en bout de pale. Mais sa consommation excessive en carburant fera que ce programme sera abandonné en 1951. Et enfin, sur l'hélicoptère Jean de Sud Aviation, en 1953, qui fit une honorable carrière commerciale. Un exemplaire volé encore en 2017, à titre privé, dans les mains d'un ancien pilote d'essai d'hélicoptère habitant aux Ors, dans les Hautes-Alpes. William Samuel Hanson dépose en 1843 un brevet pour une machine volante à vapeur et se proposait de construire et commercialiser un engin volant, l'Ariel. Cet appareil était un convertible, c'est-à-dire qu'il associait quatre rotors pour le vol vertical et deux hélices pour le vol propulsif, les rotors basculants pour assurer ensuite la sustentation. Mais cet appareil ne verra jamais le jour. Le français Ponton d'Armécourt dépose en 1861 un brevet pour un hélicoptère à deux hélices superposées, mû par un moteur à vapeur. Mais il ne fera pas voler, le rapport poids-puissance du moteur étant beaucoup trop faible. En 1877, l'hélicoptère de l'italien Forlanini, engin de 3,5 kg, propulsé par un moteur à vapeur de 1,6 kg, quitte le sol par ses propres moyens et vole 30 secondes à 13 mètres de hauteur. En 1903, Victor Tatin réalise un hélicoptère comportant deux hélices contrarotatives, l'une en haut, l'autre en bas de l'appareil, mû par un moteur de motocyclette de 3 chevaux. Et un autre fabricant de bicyclettes a s'illustré en 1907 dans le monde de l'air, Victor Cornu. Son appareil, avec deux rotors bipales en tandem, complété par deux plans équilibreurs, est considéré comme le vrai précurseur des hélicoptères actuels. C'est d'ailleurs l'année 1907 qui sera retenue comme celle de la naissance de l'hélicoptère moderne. La première machine dotée d'un pas collectif, manche utilisée pour monter ou descendre, et d'un pas cyclique, pour aller dans une direction choisie, est l'œuvre du marquis italien Pateras Pescara, qui expérimente cinq appareils entre 1909 et 1928. Pourtant, en 1920, un dictionnaire parlait de l'hélicoptère en ces termes. Appareil d'aviation, qui n'a d'ailleurs jamais existé que comme jouet d'enfant. Une autre voie est explorée par l'espagnol Juan de la Cierva, qui combine en 1923 le rotor d'hélicoptère avec une hélice tractive, créant l'autogire ou gyroplane. Mais il meurt en 1936 lors du crash au décollage d'un avion de ligne. Divers constructeurs dans le monde se lancent dans la réalisation d'hélicoptères. Et c'est l'Allemagne qui va battre en 1937 différents records. L'hélicoptère de Fokker Angelis va monter à 3427 mètres et voler à 122 km/h pendant une heure. Comme d'habitude, malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale verra le développement d'hélicoptères comme armes aériennes servant à différentes missions. Les Anglais ont étudié et fait voler un gyroplane monté autour d'une Jeep Willis, le Hafner Rotabuggy. Prévu pour être largué d'un bombardier lourd en vol, cet hybride aurait permis de déposer une Jeep au plus près du front, l'engin manœuvrant avec son rotor entraîné par la vitesse acquise au moment du largage. Sitôt posé, la partie autogire était démontée et la Jeep retrouvait une utilisation plus classique. Et en remontant l'ensemble, une fois la mission terminée, on pouvait décoller et rejoindre une autre zone. Mais cette idée assez farfelue n'ira pas loin. Il est en effet plus commode de transporter les jeeps dans des planeurs de transport tractés. Après la guerre, l'industrie américaine s'étoffera avec Sikorsky, Bell, Piasecki, la fameuse banane volante, Vertol, l'URSS avec Kamov, Mille et Yak, et enfin l'Europe se reconstruira avec en France Sud Aviation, à La Courneuve et à Marignane. En Allemagne avec Bolko, en Italie Agusta et en Angleterre Westland. Un constructeur français indépendant, Jean Catignot, essaiera plusieurs modèles entre 1951 et 1963, mais sans succès commercial. Et encore une fois, il y aura une guerre et c'est au Vietnam que l'hélicoptère sera le plus employé comme moyen d'assaut et comme ambulance. D'ailleurs, l'hélicoptère est la seule machine développée pour la guerre qui a sauvé plus de vies que ce qu'elle en a prises. Aujourd'hui, les hélicoptères sont utilisés dans les armées, transport de troupes, évacuation sanitaire, appui-feu, observation, reconnaissance. Et dans le civil, travail aérien, surveillance d'installations électriques et de canalisation, secours et sauvetage en mer, à terre, en montagne, évacuation médicale, épandage agricole, lutte contre les incendies, opérations de police, reportage photo, il n'y a aucune limite. Les US Coast Guard ont commandé en 1980 90 exemplaires d'un Dauphin très largement personnalisé, la S-366G, qui était à la livraison équipée de moteurs américains. Obligation due au Buy American Act, qui exige que tout matériel commandé par une entité gouvernementale américaine ait au moins 50% de sa valeur constituée d'équipements américains. Mais il a bénéficié en 2018 d'une remise à niveau, avec entre autres des moteurs français fabriqués par Safran Helicopter Engine, ex-Turbomeca. Le transport de passagers ne s'est jamais vraiment développé vers le grand public, à cause d'un coût trop élevé de l'heure de vol. Quelques tentatives en Belgique, la Sabena avec un appareil américain, ou en Grèce, Olympic Airways avec un AS-321 Super Frelon de Sud Aviation, pour relier différentes îles, n'ont pas duré. Ce moyen de transport est actuellement majoritairement utilisé par des VIP ou des vedettes du showbiz. Seules quelques sociétés font des liaisons entre grandes cités touristiques et aéroports, exemple Nice-Monaco ou New York, l'aéroport Jeff Kennedy. Ou pour des vols permettant la découverte par les airs de sites remarquables, par exemple aux États-Unis, le Grand Canyon du Colorado, et en France, l'île de la Réunion. Le H160, dernier né d'Airbus, est un très bel appareil, promis à une très belle carrière, tant civile que militaire. Très proche des hélicoptères dans leur conception, les drones. On assiste aujourd'hui à une explosion des projets de développement et d'utilisation des drones pour des applications civiles, surveillance d'installations, inspection de sites industriels, épandage agricole, livraison de colis, ou militaires, surveillance de territoires hostiles, tirs de missiles, etc. La demande aussi entraîne l'émergence d'une multitude de constructeurs, que ce soit les gens de l'aéronautique comme Airbus, ou de petites sociétés se positionnant dans une niche très précise. Par exemple, Sky High Tech, solution autonome de pilote qui vise à remédier aux différents obstacles rencontrés lors de l'utilisation des drones. Métis, exploitation sismique des sols. Atterris, conseil aux agriculteurs dans la gestion de leur culture. APAV, maîtrise du risque en environnement de travail, etc., etc. Plus proche de nous, les feux de forêt, les pompiers des Bouches-du-Rhône utilisent plusieurs types de drones pour surveiller les zones de feu et apporter une aide dans la conduite des interventions, la recherche de personnes dans les zones menacées, mais aussi la surveillance de pollution. Mais la multiplication des vols de drones commence à poser de sérieux problèmes aux gestionnaires du trafic aérien et aux responsables de la sécurité. Plusieurs survols de sites sensibles, comme des centrales nucléaires, ont été enregistrés. Aux abords des aéroports, de nombreux incidents sont signalés par les pilotes, à tel point que l'aéroport de Londres-Gatwick a été paralysé le jeudi 20 décembre 2018, deux drones ayant été repérés en train de survoler le site. Le résultat a été un blocage complet du trafic, de très nombreux avions n'ont pu atterrir ou décoller, et des centaines de passagers ont dû patienter dans l'aérogare. Autre domaine qui monte en puissance, le transport de passagers sans pilote, les taxis volants. En réponse à un appel d'offres lancé par la société de VTC Uber, dont le cahier des charges demande de pouvoir transporter à minima 4 à 5 passagers sur 100 km à 215 km/h, plusieurs constructeurs proposent des projets innovants. Airbus tout d'abord, avec deux projets, Vahana et City Airbus, 4 personnes, 120 km/h. Bell Hélicoptère, Air Taxi, Neoptera, bel engin de 8 moteurs électriques installé sur deux ailes basculantes autour d'une nacelle pour passer du décollage vertical au vol horizontal. Et puis une succession d'autres jetcopters, volcopters, lithium-gen, Cora. Aujourd'hui, la liste s'allonge régulièrement. À noter qu'à mi-2018, la réglementation aérienne autour de ces engins volants devant évoluer en zone urbaine n'était pas encore finalisée. Autre domaine un peu marginal, les aéroglisseurs et l'hydroptère. À mi-chemin entre les bateaux et les avions, on trouve ces deux types d'appareils. Tout d'abord, les aéroglisseurs. Porté par un coussin d'air, l'aéroglisseur se déplace sur un coussin d'air au-dessus de la surface, que ce soit de la terre ou de l'eau. Plusieurs modèles ont été construits et mis en exploitation, certains pour des utilisations civiles, par exemple traversée de la Manche, ou militaire, l'US Marine Corps. En France, la Société d'études et de développement des aéroglisseurs marins a mis au point un prototype, le Naviplan N500 Jean Bertin. Deux exemplaires ont été fabriqués en 1977 à Pauillac, en Gironde, mais cet appareil n'a pas eu de succès commercial. L'hydroptère, lui, est un bateau sur lequel ont été installés des hydrofoils qui soulèvent la coque au-dessus des vagues à partir d'une certaine vitesse. Cette technique, popularisée par les voiliers de course, a été mise en œuvre par plusieurs sociétés et des navires assurent des liaisons entre des îles grecques. En France, Aérospatial a tenté l'expérience avec un hydroptère propulsé par deux réacteurs marborés, mais sans dépasser le stade du prototype qui faisait des essais sur l'étang de Berre en 1972. Malgré des résultats techniques satisfaisants, avec 105 sorties et 50 heures de vol, le programme fut arrêté, sûrement suite au retournement de l'appareil. Sans dommage pour l'équipage, mais fatal pour l'installation d'essais. Enfin, autre technique, l'écranoplan. Sous ce terme barbare se cache une machine mi-avion, mi-bateau, là aussi. C'est un avion volant au ras de l'eau, bénéficiant d'un effet de sol important. Cet effet de sol permet d'augmenter la portance, donc la masse que l'appareil est capable d'emporter au ras des vagues. Un appareil de ce type a été développé par l'armée russe à la fin des années 60 le KM, baptisé « Monstre de la Caspienne », appareil de 550 tonnes, propulsé par 10 réacteurs. Il volait entre 13 et 14 mètres au-dessus de l'eau, à 550 km/h. Mais il a fini sa carrière dans l'eau en 1980 suite à une erreur de pilotage. Il fut suivi par un appareil plus modeste de 125 tonnes, l'A-90 Orlionok, l'aiglon en russe. Seuls 4 appareils furent construits et 2 furent détruits en vol. Cet appareil est exposé dans un musée russe. Enfin, un autre écranoplan, le MD Lune, a été développé pour la lutte anti-navire. Propulsé par 8 turboréacteurs et armé de missiles mer-mer, il servit en mer Noire jusqu'en 1990. Un autre projet est en cours, l'Orlan. Dans une bande dessinée de Bogdani, Les Secrets de la mer Noire, l'auteur, Bergès, fait intervenir l'Orlan. De dimensions plus modestes, il est équipé de 2 réacteurs dans la carlingue ainsi que d'une hélice bipale en haut de l'empennage. Ce concept est repris aujourd'hui par une société singapourienne, V-Gateworks, qui propose l'Airfish 8, un petit bimoteur de 15 mètres d'envergure à aile delta inversée et double empennage, propulsé par 2 moteurs diesel développant 550 chevaux, emportant l'appareil à 500 km/h au-dessus des flots.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Après ces techniques aéronautiques, voyons un petit peu ce qui se passe sur les techniques astronautiques. On va regarder les progrès techniques et les débuts de la conquête de l'espace de 1945 au début des années 60. Tout d'abord, l'apport de Peenemünde. Et je vous expliquerai ce que c'est. Mais il y a un homme clé dans tous ces programmes aéronautiques, Werner von Braun. Le programme américain doit tout à ce scientifique allemand. Il est né en 1912 à Wrzywsk, prononciation non garantie, en Pologne de l'Est, aujourd'hui la Pologne, en Prusse de l'Est, pardon, aujourd'hui la Pologne, d'une mère passionnée d'astronomie. Il s'intéresse dès son plus jeune âge aux étoiles. il reçoit son premier télescope à 8 ans. À 15 ans, il lit le livre d'Hermann Oberth, dont on a déjà parlé, « Les fusées à l'assaut de l'espace ». Et sa rencontre avec cet auteur, en 1930, le décide de se consacrer uniquement sa carrière d'aéronautique à l'astronautique. Ils travaillent ensemble à la mise au point des moteurs à réaction et avec deux autres amis passionnés, installent un terrain d'expérimentation de fusées à Berlin. Un autre événement a décidé du futur de Werner. Sa présence, au début des années 30, à une conférence donnée par Auguste Piccard, qui venait de réaliser un vol à très haute altitude en ballon. En sortant, il s'était dit qu'il enverrait une fusée vers la Lune. Fabriquée à partir d'éléments divers de récupération, sa fusée Mirac 1, Mirac pour minimum raquette, raquette étant fusée en allemand, prendra l'air en 1932. Ces expériences intéressent au plus haut point les militaires allemands, qui le recrutent au titre d'ingénieur civil. En 1935, il installe son centre d'essai à Peenemünde, sur l'île d'Usedom, dans la Baltique. La fusée Mirac, devenue A1, puis A2 et enfin A4, d'une poussée de 4000 décanewtons, décolle à son troisième essai le 3 octobre 1942. Elle atteint 85 km et 5000 km/h. Et le 7 octobre 1944, cette A4, devenue V2, de sinistre mémoire, est tirée sur l'Angleterre. Entre octobre 1944 et le 27 mars 1945, près de 6000 V2 ont été tirés, essentiellement sur Londres et Paris, de bases installées un petit peu partout, parfois en territoire français. Ce sont les Soviétiques qui arrivent les premiers à Peenemünde, le 5 mai 1945. Les Américains, eux, sont à Nordhausen, en Thuringe, là où sont assemblés les V1 et les V2, par des prisonniers de guerre, installés dans de vastes usines souterraines. Plus de 7500 V1 seront fabriqués dans ces usines. Les deux camps récupèrent de grandes quantités de matériel, et les Russes mettent la main sur les plans du V2. Mais la plus belle prise, c'est Werner von Braun, qui s'est rendu le 2 mai 45 aux Américains avec 150 autres scientifiques allemands et qui est exfiltré lors de l'opération Paperclip, trombone. De son côté, l'URSS récupérait quelques scientifiques pour son programme balistique. Les Français recrutèrent aussi des scientifiques allemands qui travailleront sur le programme Véronique. Et les deux camps, même les trois, puisque les Français aussi le feront, réutiliseront les V2. Aux États-Unis, d'abord. Installé dans les bureaux de l'agence qui précédera la NASA, Werner von Braun réutilise la centaine de V2 récupérés en pièces détachées, ramenées de Peenemünde, rebaptisées A4. Le premier tir de V2 aux États-Unis a lieu le 19 avril 1946 sur la baie de White Sand, au Nouveau-Mexique. Base qui avait déjà connu une première, l'explosion de la toute première bombe atomique le 19 juillet 1945. Essais atomiques qui seront par la suite faits à Los Alamos, au nord de Las Vegas. Dès 1946, les V2 trouveront une mission plus pacifique que celle pour laquelle ils avaient été conçus. Les astronomes équipant une fusée d'une caméra automatique qui, à 160 km d'altitude, photographiera le Soleil dans l'ultraviolet, à la longueur d'onde de 200 nanomètres. Elles permirent aux Américains de mener diverses études scientifiques et surtout de construire la fusée Aerobee et Viking. Et enfin, le vrai début des fusées américaines, la Redstone, développée pour le compte de l'Army Ballistic Missile Agency. Équipée d'un deuxième étage dépourvu de contrôle d'orientation, le deuxième étage atteint l'altitude correspondant à la frontière de l'espace, le 24 février 1949, frontière de l'espace que l'on considère aux alentours de 100 km. La fusée Jupiter C servira aussi à tester le retour dans l'atmosphère des missiles stratégiques, où l'on revient à la fonction première des V2. En URSS, les soviétiques essaient à plusieurs reprises le V1 A, dérivée de la V2, puis la R1, depuis le cosmodrome de Kasputin-Yar. Cette retombée des avancées techniques dans le domaine de la recherche civile, réalisée grâce à des dépenses militaires, n'est qu'un exemple. Il y en a bien d'autres, dont tout, comme l'avion ou l'hélicoptère dans le secteur aéronautique. Maintenant, je vais avoir le plaisir de passer la parole à M. Mian. M. Mian, qui va fêter cette année ses 93 ans, a été un des précurseurs de l'Observatoire de Haute-Provence. Bien, bonjour, M. Mian. Vous avez travaillé à l'OHP, à l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel Observatoire, entre 1953 et 1960.
60, oui.
Aujourd'hui, vous avez 92 ans. Oh là là. Donc ça veut dire que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes à la retraite.
Je suis en retraite depuis 30 ans, mais bientôt.
Mais par contre, vous ne travaillez plus dans ce domaine, mais vous avez sûrement participé au tout début des activités de l'OHP. L'OHP a été créé en 1937.
Oui, très tôt.
Donc vous êtes fait partie des premières personnes qui ont pu travailler à l'OHP.
Oui, c'est-à-dire que... Donc, au fur et à mesure que l'instrumentation se développait, le premier télescope, c'était un télescope de 80
de diamètre,
ouais, qui avait été monté au début à côté de Fort-Calquier, sur un site, et une fois qu'on a décidé de prendre l'OHP comme site, l'appareil lui-même, l'instrument, a été transporté à l'OHP dans une coupole, et ça a été le premier instrument de l'OHP. Et après, il y en a eu d'autres.
Et la grosse coupole qui est là
C'est la coupole du 80.
D'accord.
C'est la première, mais la grosse coupole qui est là, c'est celle du 120 qui a été faite plus tard.
Plus tard, d'accord. Donc c'est pas la plus grosse que l'on voit quand on
est. Et la plus grosse encore, celle du 2 mètres, qui a été faite à peu près au moment où j'ai quitté l'OHP, en 1962-63, était mise en route à peu près à cette époque-là. Et alors là, c'est un télescope de 1,93 m de diamètre.
Donc, vous, votre métier, votre activité consistait en quoi à l'OHP, quand vous y étiez?
D'abord, j'ai commencé à l'Observatoire de Bordeaux, ma carrière, en 1950. Et je suis rentré à l'astronomie par hasard. Le ciel m'intéressait. Les étoiles, comme tous les jeunes chacun, à l'époque. Voilà. Et puis, je suis venu à Bordeaux faire mes études à l'université. Je suis sorti avec une licence de physique. Et en même temps, à l'époque, il y avait on fabriquait des ingénieurs. C'était des ingénieurs d'université, vous savez. Oui. Ce qui fait qu'on faisait un an ou deux de plus. Et c'était pendant les cours de licence qu'on rajoutait des heures de façon à sortir en même temps ingénieur physicien. À partir de là, bien sûr, j'ai commencé à chercher du boulot, du travail. Comme j'avais une licence de physique, j'ai fait des remplacements de professeurs dans différents collèges de la région, à Blaye, à Bordeaux, rue du Commandant Arnaud, enfin des... Puis moi, je vous avouerai que j'aurais mieux faire autre chose. Et un jour que j'étais allé voir des amis, des collègues à la faculté, à Bordeaux, et j'ai vu une affiche où on proposait un poste d'assistant à l'observatoire.
Parce qu'il y avait un observatoire à Bordeaux.
Il y a pas si l'observatoire qui est à Bordeaux, à Florac. Je me suis précipité, bien entendu. Et là, ma foi, le directeur m'a bien reçu, et puis il m'a dit, bon, ben écoutez, j'ai un poste, je vous prends, vous arrivez en septembre.
Et ça, c'était en 1950.
Voilà, en septembre, donc, 1950. Et j'ai commencé comme astronome, ce qu'on faisait à l'époque, la carte du ciel. C'est-à-dire, on mesurait la position des étoiles, d'un certain nombre d'étoiles, pas toutes, jusqu'à une certaine brillance, ouais, magnitude. Et ça, c'est un programme qui avait été préparé et pris et débuté en 1880. C'était le moment où la plupart des observatoires de province ont été faits à ce moment-là, ont été montés pour faire cette carte du ciel. Et dans le monde entier. C'est-à-dire, il y avait un étoile, je vous dirai pas si c'était 50 ou soit 40 000 ou 50 000, et on a un catalogue qui a donné la position d'un certain nombre d'étoiles
plus brillantes.
Seulement, pour avoir un mouvement d'un objet, il faut deux points.
Oui.
Un point de départ et un point d'arrivée. Oui, ouais. Et cette carte du ciel a été reprise dans les années 40 à peu près. Et on a refait la carte, et alors c'est à ce moment-là qu'on a pu déterminer le mouvement, ce qu'on appelait le mouvement propre de chacune des étoiles mesurées.
Entre les, ou là où elle était en 1880
et sa position 1850. Toutes les étoiles bougent. D'ailleurs, c'est une loi générale dans l'univers, rien n'est fixe.
Oui, tout bouge.
Tout bouge.
À des vitesses.
C'est toujours par rapport à quelque chose. Le soleil bouge, tourne dans la galaxie, les planètes tournent autour du soleil, et, etc. Et la lune autour de la Terre, etc. Et tout bouge.
Et la galaxie.
Le mouvement, la stabilité n'existe pas. Il faut que ça bouge. Et donc ça bouge, donc ça se déforme. Donc au départ de l'astrophysique, à partir de cette astronomie en état l'astrophysique, pour mesurer, à partir des positions des étoiles, mesurer aussi le mouvement de vitesse radiale, parce que ce qu'on faisait, nous, c'était le mouvement
dans le plan.
Dans le plan.
De ce qu'on voit,
au point de vue. De mais il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement radial
d'échappatoire.
Qui se faisait alors avec des spectrographes qui mesuraient la vitesse radiale de chacun des objets et ce qui donnait. Et oui, vous avez donc vous avez deux positions, deux mouvements, donc vous avez le mouvement général.
Vous aviez un vecteur qui disait
c'est donc le vecteur réel du mouvement. Et quand j'ai fait ces 2 ans de cet apprentissage, on m'a envoyé en stage dans l'Observatoire de Paris, là où il y avait un laboratoire qui préparait ce qu'on appelle l'astrophysique, c'est-à-dire les éléments, température, pression stellaire, etc., tout ce qui intéresse les étoiles en particulier.
La mesure des caractéristiques de chaque étoile.
Les caractéristiques de chaque étoile, enfin, c'est-à-dire à la fois la température de l'atmosphère.
Oui, si on a une, voilà.
Le centre de chaque étoile, c'est une bombe thermonucléaire. Mais nous, ce qu'on avait, c'est ce rayonnement qui traverse l'atmosphère de l'étoile. Ces atmosphères, la température suivant les étoiles, c'est entre, disons, 3000 degrés et 100 000 degrés, les plus brillantes, celles qui sont vraiment à la limite, quoi. Et ça, c'est ce qu'on mesurait. Alors moi, mon travail, c'était de mesurer, par la mesure de rayonnement, la température des étoiles, et aussi, je fais autre chose aussi, il y a des étoiles, les étoiles sont stables, beaucoup, la plupart, enfin quand je dis la plupart, quand je parle stabilité, de rayonnement, et d'autres sont puissantes, en particulier les céphéides, qui sont des étoiles qui varient d'éclat, période, si compris, entre 4 et 8 jours, en gros.
Ah, très rapide.
C'est rapide, rapide. Un phénomène atmosphérique dans l'étoile. Elle gonfle, elle laisse passer beaucoup de rayonnement, puis elle retombe.
Elle se refroidit
un petit peu, mais l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui ce qu'on voit, c'est l'atmosphère. Ouais. Ce qui se passe à l'intérieur, c'était une cuisine beaucoup plus compliquée.
Thermonucléaire,
et puis entre le noyau. Oui. En fusion et l'atmosphère, il y a toutes des couches qui se chargent de transmettre toute cette énergie avec des phénomènes nucléaires, atomiques, très compliqués. Et ça, finalement, ça se calme un peu à l'atmosphère où ce qu'on voit, ce qu'on a, c'est ce que la réponse de gaz, puisque c'est le système est gazeux, toute la matière est réduite à l'état de gaz.
À cette température-là.
Sauf pour les étoiles les moins chaudes, où on commence à avoir des molécules dans l'atmosphère terrestre. Des molécules gazeuses, c'est-à-dire des combinaisons de. C'est-à-dire hydrogène, oxygène.
On quitte le plasma pour avoir des combinaisons de.
Oui. C'est un plasma, mais dans ce plasma, il commence à y avoir des molécules.
Des molécules.
Ça a été l'objet de mon travail toute ma vie, de mesurer tout ça.
Et ça, c'était. Bon, ça, vous avez fait ça à Bordeaux.
On m'a envoyé à l'OHP.
Donc,
vous avez travaillé avec des.
À 53, vous avez.
Des détecteurs quantiques qui utilisaient l'effet photoélectrique. La lumière reçue des étoiles éjectait des électrons, donc de l'électricité. C'est cette électricité qu'on mesurer
qui vient,
à partir des
quand
petits
qui vient frapper les détecteurs.
Ouais. Avec des détecteurs qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'ils sont dépassés.
Oui, je pense qu'entre 1953 et maintenant, la technologie a évolué.
Et ça, j'ai terminé, si vous voulez, à une charnière où l'astrophysique a complètement changé de genre et de possibilités et de moyens. Parce que, après la guerre, il y a eu des progrès techniques énormes qui ont été faits pour des buts de guerre, et puis ensuite ça les servit pour
les utiliser.
C'est là qu'on a travaillé sur des détecteurs. Mais la micromécanique a beaucoup aidé. Ensuite, la microélectronique a beaucoup aidé. C'est-à-dire tous ces appareils. Moi, j'ai eu un appareil qui avait le volume d'un ancien poste de télé. Maintenant, c'est réduit à un truc qui est gros comme le pouce. Comprenez ?
Oui, peut-être un peu plus petit même.
Pareil, lui-même.
L'appareil lui-même.
Alors, ce qu'il y a dedans, c'est encore pire. Ouais. C'est sur une petite couche
de silicium.
De quelques millimètres carrés. Ouais. Vous avez 100 000 diodes ou triodes.
100 000 transistors.
Les triodes de l'époque.
Avec trois pattes.
Qui avaient
3 centimètres de haut.
Et alors, on est arrivé après, sur la fin de ma carrière, on avait concentré un peu, on avait quelques petits microprocesseurs, on avait des petites bêtes avec 14 pattes où il y avait dedans des portes et des pots de fer. On utilisait ça, c'est l'algèbre binaire,
l'algèbre de Boulle,
qui permettait de faire marcher des appareils. Il nous arrivait de fabriquer nous-mêmes des appareils, faire fabriquer à l'atelier.
Donc vous définissiez des appareils.
Et oui, on disait voilà ce qu'il vous faut.
Vous imaginiez des détecteurs. Vous donniez ça à l'atelier.
Et à l'atelier, nous montait ça où il fallait, comme il fallait, le faire avec évidemment toutes les précautions d'usage et tout.
Oui. Donc vous avez créé des instruments
j'ai créé ce qu'on appelle les photomètres, et c'est la manière surtout qui permettait de, parce que voilà, l'astronomie au sol, c'est l'astrosphère terrestre, c'est l'ennemi de l'astronome.
C'est le perturbateur.
Alors, quand il y a des nuages, on ne peut pas travailler, enfin, à part le solaire, ceux qui font le solaire qui travaillent le jour, mais ça c'est à part. Tous les astronomes de nuit, les nuages, la brume, l'agitation atmosphérique, l'image d'une étoile, normalement, quand on se, avec un télescope ou un instrument d'optique, s'il n'y avait pas d'atmosphère, vous n'auriez pas une image. Vous voyez ce qu'on appelle une tache d'Airy, c'est-à-dire un point central avec des anneaux autour. Oui. C'est une image de diffraction. Parce que le diamètre de l'étoile vu de nous est tellement petit,
il ne peut pas y avoir
d'image. C'est-à-dire, et pour définir la résolution, c'est de savoir à partir de quelle distance angulaire sont deux étoiles qui se distinguent
les deux
taches d'Airy. Voilà. Eh bien, les étoiles, même la plus proche, ne nous donneraient des taches d'Airy, mais avec l'atmosphère, c'est une espèce d'amibe là qui se promène. Là,
tout est mélangé et on voit rien.
Quand on veut faire de l'astrophysique, on essaie de compenser l'atmosphère, le tout c'est de faire rentrer toute cette lumière sur un détecteur et de le mesurer. Avec toutes les difficultés de transmission atmosphérique qui varient d'un moment à l'autre. Enfin,
c'est pour ça que sur les télescopes, il y a des instruments qui mesurent les perturbations atmosphériques pour corriger.
Oui, pour corriger. Quand ce soit pour corriger le mouvement.
Oui. Il y a le vent, il y a tous ces déplacements de masse d'air qu'on corrige pour avoir une image nette.
Alors maintenant, l'optique a fait des progrès énormes, puisque nous avons maintenant des instruments, par exemple, ceux qui sont sur la cordillère des Andes, grands interféromètres qui sont l'équivalent d'un miroir qui aurait, mettons, 100 mètres de diamètre. On ne peut pas fabriquer un miroir à 100 mètres de diamètre. On fabrique des petits instruments, relativement petits, et on met tout ça en face. Alors, je ne vous parle pas de l'électronique et de l'informatique.
Pour combiner tout ça.
Et on arrive à voir de belles images. Et c'est comme ça qu'on arrive, si vous voulez, à voir dans le fond, ce que j'ai vu tout dernièrement, l'image de l'univers, mais un moment après le Big Bang, parce que ce n'est pas le Big Bang qu'on a.
Oui, c'est 300 000 ans après le Big Bang.
Oui,
moment où il y a les premiers,
d'ailleurs,
ce qu'on appelle les fonds diffus cosmologiques.
Ce n'est pas tout à fait euclidien.
Donc, vous avez 92 ans, mais vous continuez encore à vous passionner pour tout ça.
Ah ben moi, j'aime, c'est-à-dire, je suis passionné parce que les souvenirs de ce que j'ai fait... On envoie des mobiles sur la planète, sur Mars, tout comme ça.
Des rovers.
On ne fait pas trop attention à ça, parce que ça a l'air petit. C'est ce mobile qu'on a envoyé sur cette comète.
Sur Chury.
Enfin, les difficultés de rejoindre deux objets dans deux objets qui, dont l'attraction est tellement faible,
ah oui,
qu'ils n'ont pas de poids l'un par rapport à l'autre.
Je disais que Philae, quand il s'est posé sur la comète, son poids relatif, c'était 1 gramme.
Mais oui.
Alors qu'il fait 98 kilos. Et son poids se fait ramener à la masse de la comète, faisait l'équivalent de 1 gramme sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a rebondi.
La gravitation était très faible. Oui, c'est ce qu'on risquait. On avait peur que le choc
se fasse rebondir
sans qu'il soit rappelé.
C'est ce qui s'est posé. Il a touché la comète, et comme il ne pesait rien, le tout petit impact l'a déplacé avant que les grappins mettent la main dessus.
Oui, alors il est un peu de côté, il a quand même donné des résultats.
Oui, il a marché, et puis surtout la Rosetta a amené des choses.
Et puis, la précision qu'il a fallu pour arriver à les amener l'un avec l'autre. La comète, elle a fait
autour
son chemin, mais pour amener
la ville, sonde autour. C'est fou. 10 ans de voyage pour aller récupérer un corps céleste qui fait, je crois, 200 mètres de long, chose comme ça, quoi.
Oh, même pas.
La totalité de la comète,
c'est un petit corps céleste, quoi. Fait minuscule.
Oui, c'est fantastique.
Et s'il avait été rond encore, ça allait, mais plus
c'est une cacahuète. Une cacahuète, c'est merveilleux, ça. C'est sûr que. Et vous, ça vous
passionne encore. Alors moi, j'aime entendre ces résultats. Le Big Bang, on commençait à en parler quand je suis parti, on en parlait un peu, c'était la théorie du Big Bang. J'en pense le plus grand bien, mais je pense que c'est quand même le résultat d'études sur le nucléaire.
Oui, sur l'infiniment
qui a donné cette idée de dire, bon, si l'univers, au départ, c'était de l'énergie pure, comment arriver à la matière, le nucléaire, on répond.
Avec des électrons, des neutrons, des protons.
Ils sont partis de là, irréversibles.
En le prenant à l'envers.
Irréversibles.
Tout à fait.
Alors, ce sont eux qui ont donné l'idée, si vous voulez, dès le départ. Et les astronomes disent, on va foncer là-dessus, on va voir ce qui se passe. C'est aux astronomes d'aller chercher
l'info,
les données.
L'information qui vient du ciel.
Les informations.
Et quelque chose comme le télescope Hubble, qui est dans l'espace,
ça fait un progrès énorme.
Ça a dû vous passionner, ça aussi.
Justement, parce qu'il s'est affranchi de l'atmosphère.
Il était au-dessus. Au-dessus de l'atmosphère. Donc les images de Hubble.
On avait des images extraordinaires que je n'avais plus à voir. Vous pouvez monter au pic du Midi, mettre au sommet du Mont Blanc. Ça bouge, ça fait l'atmosphère, et puis qui bouge. Là, c'était en dehors, tout à fait, c'était merveilleux.
Il est à 400 km, comme ça, d'altitude. Et évidemment, là, il est dégagé de toute perturbation.
Ah oui.
Et les images sont merveilleuses.
Ah, mais il tourne, il se déplace. Et puis alors, si vous voulez, ce qu'on fait avec les transmissions et tout ça, qui permettent justement, aussi loin, avec aussi peu d'énergie, parce que plus vous éloignez, plus l'énergie est là. L'énergie reçue est faible pour actionner ces appareils. Ça aussi, c'est une technique aussi qui n'est pas de astronomique, mais qui me plaît.
Vous avez vu que récemment, ils ont réactivé la sonde pionnière, qui est partie il y a 40 ans, et ils lui ont envoyé un message qui a mis, je crois, 38 heures pour arriver, pour réorienter l'antenne. Ils ont réactivé les moteurs. Les moteurs, ils sont partis il y a 40 ans. Ils ont marché deux fois et 40 ans après, ils l'ont réactivé pour donner une petite impulsion pour repartir Alors je crois qu'il va vers Alpha du Centaure. Ouais, là.
Ouais. Et bien le miracle, c'est qu'il n'a pas fait de mauvaise rencontre en route.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est... Il n'y a pas grand monde là-haut, mais s'il avait rencontré une micrométéorite, crap. Ah oui. Là, il se faisait exploser.
Des particules, bon, si ce sont des particules ionisantes ou tout ça, ou alors des particules d'énergie. Là, à 300 000 km par seconde, bon, ça va. Mais vous avez des morceaux de rochers, des morceaux de n'importe quoi. Gros comme le
pouce, comme un pouce, oui.
Qui vont très vite, oui. Qui ont une énergie phénoménale, et à ce moment-là, elles traversent l'appareil. Ça y est.
C'est le risque. Bon, là, on parle de quelque chose qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ou même plus maintenant, parce qu'il a largement dépassé le Soleil. Oui. Donc, il est sorti du système solaire en pionnière. Oui. Mais ce problème dont vous parlez, c'est celui du quotidien de tous les satellites qui nous tournent dans la tête,
qui ramassent.
Et des cosmonautes sont là. Mais plus tous ceux que les hommes ont laissé.
C'est le danger.
On jetait dans l'espace, là.
Hein. Danger, il suffit d'un petit bout de météorite d'un kilo terrestre, par exemple. Tout vous casser dans un.
C'est même pas un kilo.
Un satellite.
Il disait que. Une écaille de peinture pouvait percer la combinaison d'un astronaute.
Oui, oui.
Une écaille de peinture
qui reste en
oui, parce qu'elle tourne à 28 000 km/h. Oui, oui. Alors pour un peu qu'elle soit dans le pas bon sens de l'autre.
Il faut voir le résultat de la météorite qui est tombée dans le golfe du Mexique.
Oui, le Yucatan.
Le secondaire, voilà. Qui a pas mal de dégâts chez nos anciens.
Chez nos amis les dinosaures.
Nos amis les dinosaures. Voilà. Et ça était peut-être dans le fond la chance de l'humanité.
C'est ce que disent les biologistes. Oui. S'il n'y avait pas eu ça, l'espèce humaine qui était fragile.
Elle existait déjà.
Oui,
mais sous notre forme.
Sous notre forme, voilà.
Mais non, ça devait être.
Oui, embryonnaire.
Ça n'était pas au sommet de la chaîne de l'alimentaire.
Pas encore, non. Et tous ces petits mammifères dont on est issus n'auraient pas prospéré si les dinosaures, à un moment ou à un autre, ils n'avaient pas été éliminés.
Ils ont laissé la place.
Et les tout petits qui avaient besoin de très peu d'énergie et très peu de nourriture ont progressé et on est là. Et on parle de ça. Ça ne tient pas à grand-chose.
Et avec, en même temps, les variations de la flore elle-même.
Oui, de tout.
Pas seulement la faune. La flore. Ça a été, si vous voulez, l'évolution de... D'autres choses, quoi.
Ça a changé notre monde. Ça fait notre monde. Ouais. S'il n'y avait pas eu ça, on ne sait pas où on serait aujourd'hui. Bien, bah écoutez, nous, le public de notre radio, de Fréquence Mistral, c'est aussi un public de jeunes.
Oui.
Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui serait intéressé, comme vous l'avez été il y a quelques dizaines d'années, en regardant le ciel, il y a des carrières à faire. C'est quoi le conseil que vous leur donneriez?
Le conseil, voilà. Maintenant, il s'agit d'astronomie, astrophysique. Bon, disons astronomie, c'est astrophysique, c'est pas ça. Ça devient très compliqué. On peut la faire à plusieurs niveaux. Il y a le niveau chercheur, alors c'est des gens qui sont en physique, en chimie, en bio, tout ce que vous voulez, en très haut niveau. Mais on peut aussi la faire au niveau technicien.
Oui.
Et en français, le mot technicien, un sens un peu péjoratif. C'est pas comme en Amérique, technicien, c'est comme science, c'est pareil.
Voilà, c'est un scientifique. Alors, du pratique.
Au niveau technicien. Donc, au niveau technicien, mais la noblesse du terme. Il faut qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit, il faut qu'il soit bon dans son niveau. Mais au départ, s'il veut faire l'astronomie, il faut qu'il aime l'astronomie.
Non. C'est mieux.
Bon. Et ensuite, il se lance et au niveau technicien où justement on fait de la technique de très haut niveau aussi, il faut qu'il aime ça, il faut qu'il soit bon et il faut qu'il étudie ça d'abord. On ne rentre pas dans un observatoire comme ça a pu se faire à un moment donné, comme nettoyeur. Et puis ils se retrouvent un jour astronome parce qu'ils ont étudié un peu. C'est fini. Il faut commencer avec des bonnes bases. Voilà.
Donc c'est faire des études techniques, aller le plus loin possible.
Technique ou scientifique.
Que
ce soit, mais que ce soit de bonnes études.
Donc, soit un BTS, enfin un bac, BTS, un diplôme d'ingénieur. Et ensuite, trouver sa voie dans quelque chose qui passionne. Parce que, effectivement, vous avez écrit une page de l'histoire.
Oui.
Mais aujourd'hui, on voit, avec tous les progrès qu'il y en aura d'autres à écrire, et des nombreuses.
Oui.
Et on est loin d'avoir de tout comprendre ce qui se passe, qui va se passer.
Oui. Oui.
Donc on a besoin de gens pour aller regarder et développer ces outils-là. Donc vous en avez développé des outils, on va laisser les jeunes qui arrivent là, développer la suite.
Il faut qu'ils apprennent à utiliser les outils qui vont sur lesquels ils vont travailler,
voilà,
et soit pour les mettre en ordre de marche, soit pour partir avec.
Mais ça, c'est et, pour les, et pour les améliorer.
Et pour cela, en plus, ceux qui risquent de partir dans des, ah, dans des satellites, il faut aussi qu'ils aient une bonne santé.
Oui, c'est sûr. Ça, c'est oui.
Ce qui ne empêche pas d'avoir un bon cerveau.
Il faut les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous, on a vu l'arrivée des satellites, l'homme sur la Lune.
Oui.
Je ne sais pas si on verra l'homme sur Mars.
Je serai un peu plus long.
Ça sera un peu plus long, il faut peut-être attendre aujourd'hui, je ne sais pas, 20 ans peut-être.
Comme mais, on dit possible,
mais c'est les jeunes qui nous écoutent, je suis certain qu'eux, ils verront débarquer l'homme sur Mars.
Possible, c'est fait. Impossible, comme on disait, ça sera un peu plus long.
Un peu plus long, voilà, c'est ça.
Et ça risque d'être long parce que ça pose des problèmes de survie. Parce que nous ne sommes jamais que des hommes qui vivent dans un certain milieu.
Et protégé par la bulle de l'atmosphère.
Le surhomme qui ira dans l'espace, c'est pas pour demain.
Qui restera longtemps. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont fait des séjours dans l'espace, voire long, puisqu'il y en a qui ont dû.
Ah oui, ça a été utile. Parce que,
très utile, ouais. Mais c'est sûr que celui qui partira sur Mars, un aller-retour sur Mars avec le temps sur Mars, c'est 18 mois minimum. Il faut tenir, hein, là.
Oui.
Ça, c'est un autre débat.
Et d'autant plus que le voyage est long parce que c'est pas un voyage direct. On envoie le satellite, il fait le tour presque du système solaire pour rebondir.
Oui. Et à chaque
chaque fois qu'il rencontre une étoile, ça lui permet de rebondir, de s'accélérer.
S'accélérer.
Et alors, c'est pas un escalier tout droit, hein.
Non.
C'est un escalier en colimaçon.
Oui, voilà, oui. La balistique spatiale, c'est compliqué.
C'est très compliqué.
Et les lignes droites, ça n'existe pas.
Voilà. Eh bien, elles pourraient exister si on avait assez d'énergie.
Oui, c'est ça.
Il recueille de l'énergie uniquement en allant contourner les planètes.
En prenant un petit peu de l'énergie de la planète et on la communique au satellite.
Oui, parce que dès que vous approchez la planète, on échappe, mais on va plus vite.
Voilà, on appelle ça la fronde gravitationnelle. Bien. Très intéressant de pouvoir écouter quelqu'un qui était là au début et qui a vu progresser cette science de zéro à. Je pense que vous, là.
Puis le travail qu'on faisait, c'est pas le même que ce qu'ils font maintenant. Je vois même ceux qui ont des observatoires, soit à Hawaï, soit.
Oui.
Parce que celui qui est là sur la Cordillère, des Andes, moi j'ai travaillé sur un observatoire qui était à 2500 mètres.
Oui.
Eux, ils sont à 4000 mètres.
Oui, des Andes d'Atacama.
Donc, il y a des gens qui vont pour préparer le matériel, trouver, et puis ils descendent, et ils sont en bas, au camp de base, et ils travaillent uniquement.
Sur ordinateur.
Sur ordinateur, par avec l'informatique et avec les transmissions informatiques, comme ça. C'est merveilleux.
Ouais. Par contre,
on grimpait le long des télescopes, non ? Parce qu'ils avaient des positions bizarres. Et alors, il fallait tourner les boutons, là, puis, parce que nos appareils, ils n'étaient pas automatiques, forcément. Alors, je sais, quand il fallait changer des filtres pour avoir, par exemple, des mesures sur une autre couleur, et on avait un interphone, et bon. J'avais un jeune homme qui était agile, un bon technicien, et il était accroché après, il passait moi le filtre bleu, le numéro 2, alors tac, il tournait ça.
Il allait monter ça,
Et oui, mais parce que on faisait avec ce qu'on avait.
Oui, voilà. Ouais. Et vous avez découvert plein de choses avec ce que vous aviez.
Et
c'est vrai qu'aujourd'hui, informatiquement, on fait tout.
Ah oui,
mais il faut quand même des gens qui restent là-haut à 4000 mètres pour entretenir ce qui existe.
Ils vont le temps qu'il faut, mais après, on les redescend, mais ils ont fait le boulot. Mais c'est dur. À 4000 mètres, c'est dur. Et ça, c'est, même à Hawaï, je crois qu'il est encore plus haut. 4500
ou 5000
mètres.
Oui, on a du mal à respirer. Au-delà de 4000 mètres, on a du mal à respirer.
Mais c'est merveilleux, ces transmissions qui se font, et transmissions sûres, elles sont sûres.
Oui.
Vous savez, ça vous appuie sur le bouton, vous savez ce qui va
se passer. Instantanément.
Pas de problème, voilà. Ça, c'est.
Et ça marche.
Et ça marche. Et moi, je trouve ça merveilleux.
Oui, mais c'est merveilleux. Mais là, tout ça, tout est merveilleux. Toute cette technique, c'est merveilleux. Bien. Ben, voilà. Merci bien.
Vous savez, je vous ai dit, je ne vous parlerai pas des données actuelles parce que, je vous dirais que ce qu'on a appris sur les planètes, par exemple, c'est tout récent. On sait maintenant comment se forment les planètes. Il n'y a pas 20 ans, on le sait.
Oui, c'est ça qui est fou.
Voilà. On s'est aperçu que les planètes, les planètes se forment en même temps que le Soleil.
Oui, ouais.
Avec un petit temps de retard.
Avec ce qu'a laissé le Soleil.
Les planètes, c'est vraiment ce qu'on appelle les filles du Soleil.
Oui, oui. Là, et les miettes, parce que dans le système solaire, le Soleil, la masse du Soleil, c'est 99% du système solaire.
Oui.
Il reste 1% pour la totalité.
Tant qu'il est encore un peu mou.
Oui. Tout le monde a récupéré un petit bout. Il en a laissé un petit peu aux autres.
Il a laissé des noyaux qui ont formé notre planète.
Notre planète et toute la série des planètes du système solaire. Bien, merci monsieur.
Oui, ben, je vous en prie.
Durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques.
Nous assisterons lors de la prochaine émission à l'essor de l'astronautique avec les premiers satellites américains mis sur orbite. Nous aborderons aussi quelques aspects techniques liés aux satellites et verrons quels étaient les projets concernant la conquête de l'espace à ce moment de son histoire. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 7 février 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusée le mercredi 16 janvier à 15h. Merci à James pour la technique, à François et son équipe pour leur accueil. Je vous renouvelle mes vœux pour 2019. Et vous souhaite à tous une très belle fin de journée.
Merci Jean-Jacques et belle journée sur Fréquence Mistral.